bonjour Alain Marathon.
Bonjour Laetitia Gaillet, comment allez-vous en cette belle matinée de dimanche?
Je vais bien, mais en même temps je me pose la question avec ce que vous m'avez mis comme balade. Vous voulez qu'on aille dans un cimetière? C'est un jardin, un cimetière?
Eh bien oui, bien sûr. J'ai conscience que le sujet peut être délicat à évoquer, mais il existe les cimetières merveilleux où il fait bon se promener.
Et le plus beau.
Le Père Lachaise à Paris, incontestablement. Mais il y a un fait, voyez-vous, et c'est là aussi incontestable, beaucoup de ceux qui nous écoutent sont parfois gênés dans des lieux où reposent par centaines nos semblables.
D'où l'intérêt pour eux de se limiter à la visite des vrais jardins.
Mais le problème est que certains jardins, de vrais jardins, sont aussi de véritables cimetières, comme, par exemple, encore, le jardin des Tuileries.
Comment ça donc? Rappelez-nous ça.
Alors, petit rappel historique rapide. Lorsque le site, les Tuileries, est restauré sous Louis XV, il est planté de nombreux arbres, dont un marronnier qui va, écoutez bien Laetitia, qui va connaître une étonnante renommée. Le 10 août 1792, les révolutionnaires envahissent le jardin et le château. Les combats sont terribles et les gardes suisses, chargés d'assurer la protection de la famille royale, sont tous massacrés. En ce temps-là, on ne s'embarrasse pas de formalités et beaucoup de corps sont enterrés directement au pied du fameux marronnier. Celui-ci, l'arbre, devient ensuite un symbole pour les vétérans de la grande armée de Napoléon qui se réunissent tous les 20 ans le 20 mars sous son branchage en hommage aux gardes suisses massacrés 38 ans plus tôt.
Et pourquoi le 20 mars ?
Alors, la raison est simple, c'est la date anniversaire de la naissance du roi de Rome, il est né en 1811, mais aussi et surtout le jour où Napoléon, de retour de l'île d'Elbe, entre triomphalement dans Paris. Les années qui suivent, les journalistes, parfois en manque d'inspiration, sont désormais sereins pour écrire leur papier, car ils savent qu'il existe un marronnier, un sujet incontournable qu'il convient d'évoquer à date fixe.
Et forcément, on se pose la question, est-ce que cet arbre est encore vivant?
Il est mort en 1911, mais il n'est pas tout de suite abattu. Son tronc et quelques branches sont conservés pendant quelques années. C'est finalement en novembre 1913 qu'il disparaît du jardin. Sa disparition, eh oui, fait la une du Figaro du 21 novembre 1913, et le journaliste qui a pris la plume ne manque pas d'humour, voilà ce qu'il écrit. « Je suis très triste qu'on ait abattu ce vieil arbre des Tuileries. C'était pour les Parisiens un véritable ami. » Une vieille branche. Je trouve ça très drôle. Alors, il ne reste aujourd'hui plus trace ni du vieux marronnier, ni des combats, mais il se dit encore que le corps des 950 gardes suisses morts repose pour l'éternité dans l'un des plus grands, des plus vieux et des plus beaux jardins de Paris.
Voilà, comme quoi un jardin peut être un cimetière et un cimetière peut être un jardin.
Tout à fait.
On passe aux questions
Je vois que vous avez suivi.
Ah, je vous suis à fond, Alain Marathon, vous allez devoir à votre tour être à fond puisque ce sont les questions des auditeurs. Et pour votre main verte, la question de Viviane pour commencer. Est-ce que c'est le bon moment pour tailler une haie de cyprès?
Je me pose la question. Vous savez que le réchauffement climatique, les transformations observées me font aujourd'hui poser des questions que je ne me posais pas hier. Il y a quelques années à peine, je vous aurais répondu oui, c'est la bonne saison. Je conseille de tailler les cyprès, allez, un mois ou deux après le début du printemps pour que la coupe de l'année soit tout de suite maintenue. Et puis de les tailler, pourquoi pas, en été pour que tout le reste de l'année jusqu'à l'hiver, la présentation de la haie soit conforme à l'idée que l'on s'en fait. Sauf que le réchauffement climatique fait que les végétaux souffrent. Observez le nombre d'arbres, d'arbustes qui sont en train de mourir. Regardez le nombre de haies, de conifères, tuyas, camécis, paris, cyprès, etc. qui sont en train de sécher dans les haies. Et il faudrait en plus ajouter à cette torture une taille drastique pour le végétal. Je me demande si la canicule n'a pas pour conséquence de faire souffrir outrageusement les conifères. Je préconise donc d'attendre le retour de la pluie et d'attendre l'automne pour tailler les cyprès, les et tuya et autres juniperus.
J'ai une question en plus, Alain Marathon.
Oui.
Est-ce que le réchauffement climatique que vous observez décale du coup les cultures, les tailles, etc.?
Oui, considérablement, mais c'est le plus préoccupant n'est pas tellement le décalage. Effectivement, lorsque l'hiver est moins long d'ordinaire, lorsque il dure davantage, on constate par exemple des fleurissements inhabituels chez les marronniers, mais il y a aussi des conséquences beaucoup plus préoccupantes pour l'environnement. Je vais vous donner un exemple concret. Les hêtres sont des végétaux qui, il y a longtemps, sont de très beaux arbres, avaient pour lieu de naissance le pied des Pyrénées. Aujourd'hui, l'aire naturelle de reproduction des hêtres se situe au nord de la France. Imaginez le chemin parcouru en quelques centaines d'années seulement. Et bien aujourd'hui, les hêtres ne supportent pas les périodes de canicule et de sécheresse et ils disparaissent petit à petit de nos paysages. Un hêtre planté en solitaire, directement en contact avec le soleil, n'a pratiquement plus aucune espérance espérance de vie, c'est dramatique. Les bouleaux également, regardez, quand on est la population des bouleaux souffre énormément. Et pour tous ceux qui nous écoutent en voiture ce matin, ils sont très nombreux. Regardez ces champs souvent qui sont bordés par des bosquets. On a l'impression que la lisière du bosquet a été brûlée par le soleil. On a même l'impression en fait qu'il y a eu un produit dessus. Donc c'est dramatique. Le réchauffement climatique transforme donc les périodes de germination, de floraison des végétaux, permet également à quantité de bestioles de ne plus avoir à souffrir du froid l'hiver. Donc oui, le réchauffement climatique constaté par les jardiniers est dramatique pour les végétaux d'ornement.
Eh ben moi, là, ça c'est dit.
Excusez-moi de
j'avais cette question.
Mais c'est vraiment dramatique. Et c'est pour ça que quand j'entends des pseudo-sceptiques mettre en cause le réchauffement climatique, c'est criminel.
Vous l'observez au quotidien.
Bien évidemment. Les jardiniers, je le dis souvent, non sans fierté, sont les sentinelles de l'environnement. Et si de temps en temps, on écoutait davantage l'avis de ces femmes et des hommes qui contribuent pas seulement à colorer les villes, mais à donner de temps en temps de précieuses indications, il y aurait peut-être moins de soucis pour l'environnement.
Cette question de Florette, Alain Baraton, qu'appelle-t-on support de culture ?
C'est beau, Florette. Support de culture est un terme que je supporte pas. Aujourd'hui, on vend comme support de culture, allez, je vais faire mon Jean-Pierre Coff, de la merde. Ce qui veut dire que dans les déchetteries, on va broyer quantité de végétaux, des palettes, des n'importe quoi, et puis on va mettre ça en sac, on va mettre des petits granulés d'engrais à l'intérieur pour faire chic et pour donner quand même un petit peu de puissance pour le végétal, et on appelle ça support de culture. Et quand vous recevez, et je suis bien placé pour en parler, des marchands de terre, de terreau, de sable, on vous dit ce sont des supports de culture. Non, moi je cultive pas des supports de culture, je cultive la terre. Donc, support de culture, ce sont des mots inventés pour faire croire que le produit qu'on vous vend est de qualité. Faux, généralement, c'est de la merde.
Bah oui, non mais okay, ça
pas c'est toujours. Il y a heureusement des professionnels qui vendent de très bons produits, mais c'est vrai que le terme en tant que tel, c'est un peu comme permaculture. J'ai souvent dit, je n'aime pas ce terme permaculture. Pourquoi trouver des mots à ce qui est naturel ?
Grégoire, en colère à la marathon. Grégoire, je retrouve ma pelouse jaune et sèche. Ben oui, mon pauvre Grégoire, c'est normal, c'est l'été. Après arrosage, retrouvera-t-elle sa beauté? Mais on va pas l'arroser.
Alors, déjà, on va pas l'arroser. Attendons le retour de la pluie. Après, il va y avoir un problème. Vous savez que la nature déteste le vide. Donc, effectivement, quand les graminées qui composent un gazon ont quelque peu souffert, eh ben, il y a des plantes qui vont en profiter pour prendre le dessus. Et parfois, c'est pas très esthétique. Le liseron va s'amuser à venir. Donc, effectivement, je propose, dans un premier temps, quand la pelouse a retrouvé un semblant de vigueur et que les pluies sont revenues, d'attendre qu'elle fasse 10 ou 15 cm avant de tondre. Et une fois qu'on a tondu, pourquoi ne pas sortir une petite griffe? Ça fera du sport, ça fera de l'exercice. On griffe la surface de la terre, on rajoute un petit peu de graines de terreau, de gazon, pardon, on arrose et on donne un petit coup de main au gazon qui risque d'en avoir besoin.
Alors, vous avez environ 20 secondes. C'est soit un livre, soit une question.
Allez, oh, c'est un livre.
Allez,
parce que un livre extraordinaire. L'histoire secrète des fleurs de François Parsi, c'est publié chez Humaine Science. Les fleurs existent sur la planète depuis 150 millions d'années. On ne les découvre que depuis 200 ans. Eh bien, François Parsi, qui connaît le métier, il est chef directeur de recherche. Eh bien, il est capable d'en parler d'une manière extraordinaire. On apprend des choses fabuleuses.
Merci beaucoup, Alain Baraton. C'était La Main Verte. À la semaine prochaine.
À samedi.